Tendance RH en partenariat avec JobSphérique.
Bonjour, bienvenue dans Tendance RH, l'émission consacrée à l'innovation RH. Aujourd'hui, je reçois Benoît Méronin, prof à Grenoble École de Management et directeur général de la société Care Experience. Bonjour Benoît.
Bonjour Christelle.
Alors expliquez-nous, pour commencer, qu'est-ce le management par le care?
En fait, le management par le care, c'est une approche nouvelle du management dont je suis l'un des promoteurs et qui s'inspire en fait d'une forme d'éthique qui nous vient des États-Unis qui s'appelle l'éthique du care. Et fondamentalement, c'est une manière de renouveler le management à travers finalement une sollicitude ou une forme d'attention aux autres beaucoup plus forte. Et donc une manière de faire vivre aussi des sujets qui sont déjà bien balisés en entreprise. On parle de symétrie des attentions, on parle de bienveillance, on parle de management par les valeurs ou encore de libération. Voilà, c'est une manière d'aller peut-être un cran plus loin. En tout cas, c'est mon ambition.
D'accord. Et pourquoi utiliser un terme anglophone, le care ? Est-ce que c'est compris en France, alors qu'on parle beaucoup en ce moment de bienveillance, de management bienveillant ?
En fait, l'éthique du care est véhiculée en France finalement avec ce terme anglo-saxon, c'est-à-dire que les philosophes en particulier qui la développent parlent en fait de l'éthique au singulier ou des éthiques du care. Et donc moi j'ai souhaité finalement respecter ce choix qui est un choix pensé, c'est-à-dire que pour eux le terme anglo-saxon de care était globalement intraduisible en français. C'est-à-dire que c'est un terme qui recouvre beaucoup de significations, à la fois dans finalement l'attitude et les représentations qu'on peut avoir, mais aussi dans le passage à l'acte. C'est-à-dire que le care anglo-saxon, c'est pas seulement être finalement plein de bonnes intentions, c'est passer à l'acte, c'est concrétiser en fait le care. Et donc très globalement, il y a finalement une polysémie que le terme anglo-saxon respecte, là où les tentatives finalement de définition en français, on parle d'éthique de la sollicitude, d'éthique de l'attention à l'autre, finalement l'éthique du prendre soin, ne permettent pas en fait de rendre toute cette finesse. Et puis, vous voyez, quand je parle de prendre soin, il y a un risque aussi qui est de l'enfermer finalement dans le monde des soins, dans le monde hospitalier. Alors c'est très important, mais pour moi l'ambition c'est de pouvoir l'élargir très globalement, y compris au monde de l'entreprise.
C'est-à-dire que le care a une répercussion sur la façon de mettre en place la symétrie des attentions, c'est ça ?
Oui, tout à fait. En fait, cette idée de symétrie des attentions, elle a émergé il y a 12 ans bientôt. Et il me semblait important de poursuivre en fait finalement ce travail en allant plus loin, en lui donnant finalement aussi une densité qui lui manquait, à mon sens.
Pouvez-vous expliquer ce que c'est exactement, la symétrie?
Alors la symétrie des attentions, en fait, c'est une idée que j'ai résumée comme suit en fait dans un ouvrage, c'est prendre soin de nos équipes pour qu'elles prennent soin de nos clients. Et fondamentalement, c'était une ossature méthodologique qui finalement recommandait de construire en miroir, d'une part, un référentiel client pour formaliser l'expérience cible qu'on veut faire vivre à nos clients, et puis en miroir, donc un référentiel de management qui, lui, vise finalement à, là aussi, à définir très clairement l'expérience cible que l'on veut faire vivre à nos collaborateurs en entreprise. Et donc, à partir en fait de cette notion-là, c'était à travers l'éthique du care une manière pour moi d'aller plus loin et d'apporter aussi des éléments finalement de sens qui manquaient, notamment sur des dimensions importantes comme la reconnaissance, comme l'écoute ou encore comme le thème de la confiance qui sont si essentiels aujourd'hui dans les entreprises.
Vous allez écrire un ouvrage vous êtes en train d'écrire, qui sera publié en janvier sur l'entreprise humaine managée par le care. En quoi consiste cet ouvrage en fait ?
Alors cet ouvrage, en fait, il a une double ambition. D'abord, je le coécris avec deux auteurs, donc Marc Grassin, qui est philosophe, professeur à l'Institut catholique de Paris, et Christophe Benavent, qui est professeur à l'Université Paris-Ouest. Et l'apport du philosophe, si je puis dire, de Marc est fondamental pour moi. C'est vraiment de fonder, d'un point de vue philosophique, ce qu'est finalement cette forme d'éthique. Et pour moi, finalement, qui écrit le chapitre central, d'en déduire, d'en transposer finalement les principaux apprentissages au champ managérial, en disant finalement qu'est-ce que cette forme d'éthique nous apprend de nouveau ou qu'est-ce qu'elle renouvelle finalement dans notre vision du management. Et puis le troisième chapitre, c'est Christophe, et lui c'est un marketeur. Et donc lui, il est finalement du côté du customer care, comme disaient les anglo-saxons, c'est-à-dire finalement du prendre soin des clients. Qu'est-ce que cette forme d'éthique finalement nous apporte de nouveau du point de vue du prendre soin des clients.
Est-ce que l'entreprise est prête aujourd'hui à avoir cette démarche managériale ?
Oui et non. Oui, parce que ici ou là, on voit bien qu'effectivement, d'autres approches comme le management bienveillant ou le management par les valeurs, peut-être aussi la libération, et bien sûr la symétrie des attentions, contribuaient finalement à une prise de conscience un petit peu nouvelle dans beaucoup d'organisations. Même si en fonction des cultures, ici ou là, on avait déjà des démarches plus classiques hein, autour du bien-être au travail ou de la QVT qui fondamentalement s'efforçaient de finalement de créer un environnement de travail, on va dire, de l'ordre du prendre soin. Pour autant, le fait véritablement d'embrasser toute l'entreprise dans toutes ses dimensions et dans tous ses publics, les managers, les collaborateurs, les clients et pourquoi pas les fournisseurs, les partenaires au sens large, avec une vraie vision stratégique, avec une implantation en profondeur, notamment dans les pratiques managériales, c'est sans doute quelque chose de beaucoup plus nouveau et de très ambitieux.
Oui, très ambitieux, et ça vient surtout de la direction, non ? Cette volonté de changer les façons de faire et l'approche.
J'espère que les collaborateurs et surtout les managers, ce corps intermédiaire managérial, ce middle management qui est si bousculé aujourd'hui, et qui constitue sans doute pour moi la cible première en fait du CARE, c'est-à-dire celui à qui on demande tant, on demande notamment de prendre soin des collaborateurs, et ça c'est un petit peu nouveau. On lui demande évidemment de prendre soin des clients, ça c'est pas forcément nouveau, mais lui-même finalement il est entre le marteau et l'enclume en fait. Et je prends en lien avec l'actualité l'image du costume cravate jaune, je pense que les gilets jaunes en entreprise aujourd'hui c'est le middle management, et je pense que ces middle managers, ils ont besoin effectivement bien sûr d'incarner, de porter le CARE, mais ils ont aussi besoin eux-mêmes qu'on prenne soin d'eux.
Alors, pour changer un petit peu, l'éthique est-elle une valeur féminine ? Je crois que c'est un sujet aussi que vous approfondissez.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, au tout départ de l'histoire de l'éthique du CARE, il y a un auteur américain, une femme qui s'appelle Carol Gilligan, qui est une psychologue. Et la question qu'elle pose dans l'ouvrage séminal qui a ouvert la voie à l'éthique du CARE, c'est « La morale a-t-elle un sexe ?» Et l'hypothèse de Carol Gilligan, c'était de dire finalement oui, parce que les femmes construisent en fait les dilemmes moraux de façon différente et donc apportent à ces dilemmes des réponses qui sont différentes de celles des hommes. Alors cette hypothèse, elle est intéressante, elle a été beaucoup discutée, elle a été assez globalement rejetée, notamment parce qu'elle présentait un risque qui était d'enfermer finalement l'éthique du CARE dans quelque chose d'uniquement féminin, vous voyez, dans une relation très maternante, très maternelle, et donc d'exclure finalement l'autre moitié du globe. Et pour autant, moi je pense que cette question, elle a le mérite aussi de nous inviter, nous tous, en tant que collaborateurs, en tant que managers, en tant que dirigeants, à faire quand même le parallèle entre la relation que nous avons avec nos enfants, d'ailleurs, que nous soyons femmes ou hommes, cette relation si riche et si essentielle, et qui est une première manifestation du prendre soin, pour voir ce que cela nous inspire finalement en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que collaborateur, dans cette forme de société que d'aucuns appellent de leur vœu, qui serait effectivement une société du CARE.
On voit quand même qu'il y a des valeurs féminines qui émergent, qui peuvent être portées par des hommes, aussi bien par des hommes que par des femmes.
Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a effectivement des différences, et il faut les entendre et les assumer. Et effectivement, de par la relation particulière que nos sociétés ont attribuée à la femme vis-à-vis de l'enfant, dans son rôle éducatif, dans sa présence, qui reste encore, même aujourd'hui, hein, beaucoup plus forte en fait que pour les papas, fait qu'on a effectivement un héritage et une relation finalement entre l'enfant et la mère qui évidemment a une particularité, qu'il ne faut pas renier. Mais ça veut aussi dire pour nous les hommes que finalement cette relation que nous vivons nous aussi avec une dimension propre, hein, singulière, de nous inspirer finalement de cette forme de prendre soin qui nous paraît si évidente, hein, si naturelle, et que l'on a tendance à perdre un petit peu quand on reprend le costume finalement du professionnel, sans tomber dans une vision bisounours et candide. Hein. Le CARE, c'est surtout pas ça, il faudra insister là-dessus. Mais en tout cas, de se dire finalement, d'assumer le besoin que nous avons d'être finalement nous-mêmes récepteurs de soins et dans le même temps pourvoyeurs de soins, parce que c'est une dialectique, parce que ça marche ensemble.
Et comment voyez-vous le rôle des RH dans l'accompagnement pour améliorer la qualité de vie au travail ?
Alors c'est déjà des choses qu'elles font beaucoup, mais c'est globalement aussi d'envisager le management à l'aune du CARE. Et donc finalement de se dire qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des pratiques managériales que de concrétiser le CARE, Et je prendrai ici juste quelques exemples. L'ouvrage dont vous avez parlé permet d'aller un petit peu plus loin puisque j'y développe 10 registres d'action qui pour moi permettent de concrétiser le CARE. Poser la question du CARE, c'est poser effectivement la question des formes de reconnaissance nouvelles et surtout du besoin de reconnaissance qui est manifeste, qui est un des besoins fondamentaux de l'homme, nous dit un grand philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth. Et Axel Honneth nous dit finalement il y a 3 grandes formes de reconnaissance. Et il y en a 2 qui concernent moins l'entreprise, les 2 premières, qui sont l'amour et le fait de vivre dans une société, égalitaire, ou qui en tout cas nous permet de manifester nos droits, nos droits à l'égalité en particulier. Mais la troisième qu'on pourrait résumer en parlant d'estime sociale, évidemment, est très importante dans le monde du travail. Et se voir reconnu et pleinement reconnu comme un professionnel, disposer du bon outil de travail, être associé à certaines décisions, se voir tout simplement féliciter, dire bravo aux gens, il y a derrière tout un tas de pratiques qui finalement ne sont pas si courantes que ça. Moi souvent j'entends des collaborateurs me dire « mais vous savez, on me dit rarement bravo dans cette entreprise, on me tape rarement sur l'épaule en me disant bravo, tu viens de faire un truc assez chouette ». Donc toutes ces formes de reconnaissance, des plus banales et des plus quotidiennes à des formes beaucoup plus institutionnelles, à travers des trophées, à travers de la reconnaissance institutionnelle, permettent de créer effectivement des espaces où on reconnaît l'innovation managériale, là où elle est dans l'entreprise, pour reconnaître finalement les bonnes pratiques. Concrétiser le CARE, c'est aussi des manifestations plus traditionnelles, à travers des locaux qui soient beaucoup plus adaptés, que ce soit pour les clients d'ailleurs ou pour les collaborateurs, finalement a dû prendre soin. C'est aussi fondamentalement s'efforcer de mettre en place des dispositifs d'écoute qui donnent beaucoup plus la parole aux équipes. Il y a une tendance de fond, mais là aussi, quand vous entendez les collaborateurs, ils vous disent fondamentalement qu'on ne les écoute pas assez aujourd'hui dans les entreprises. Et donc, mettre au regard finalement l'écoute client et l'écoute collaborateur, c'est quelque chose d'important qui tend à se développer. Voilà, juste quelques exemples.
Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage très optimiste. Et puis, je vous dis, moi, à bientôt sur les ondes, dans 15 jours. Merci Benoît, au revoir.
Merci Christelle, au revoir.
Tendance RH en partenariat avec JobSphérique.